Vous êtes à l'écoute de Radio Agora.
Bonjour, Flora Tristan, l'indigné, émission radio en public à l'Agora, fabrique des futurs. Merci à toute son équipe de nous accueillir dans ses locaux. Radio Agora donne la parole aux habitants et aux acteurs locaux. Flora Tristan, l'indigné, épisode 2, les voyages. Bonjour Brigitte, bonjour Adèle,
bonjour.
Merci d'être
bonjour.
Là pour ce deuxième épisode. Avant de démarrer, nous avons sur la plateforme d'échange de Radio Agora une question qui nous est parvenue, qu'on a trouvée intéressante de poser pour démarrer. L'idée, c'est de revenir un petit peu sur cette première partie pour préciser comment a-t-elle appris à lire et à écrire alors qu'elle n'a pas été à l'école ? Nous parlons bien sûr de Flora Tristan. Je vous laisse la parole, Brigitte.
Oui, merci Gaëlle, et puis merci pour cette question. Alors, on sait très très peu de choses sur l'enfance et la jeunesse de Flora Tristan. Hein. Donc là, il faut quand même se résoudre à laisser des questions en suspens. Bon, on peut être sûr qu'elle n'est pas allée au couvent, qu'elle n'a pas eu de gouvernante, compte tenu des conditions de pauvreté dans lesquelles elle a vécu avec sa mère. Elle a dû apprendre à lire, à écrire aussi certainement avec sa mère. Bon, elle a dû avoir les rudiments qu'on donnait. La transmission mère-fille se faisait voilà, de manière assez habituelle. Les filles étaient éduquées à la maison, la mère transmettait ce qu'elle était capable de transmettre. Alors, il y a une chose dont on peut être sûr, on a quand même les premières lettres qu'elle a écrites à son fiancé à 17 ans, donc lorsqu'il a été question du mariage. Alors, on s'aperçoit qu'elle fait effectivement des fautes d'orthographe, mais bon, ça, beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes d'ailleurs faisaient beaucoup de fautes d'orthographe à l'époque, donc ça ne veut pas dire forcément... Bon, on ne peut pas non plus trop spéculer dessus, mais on voit en tout cas qu'elle a lu. Et elle a une éducation d'autodidacte, une éducation littéraire. Elle a lu la littérature romantique de son temps. Et on peut imaginer qu'elle s'est bricolée comme ça, une éducation qu'elle va affiner, bien sûr, au fil des années. Et c'est d'ailleurs une raison de plus d'admirer quand même le parcours de quelqu'un qui s'est fait elle-même, on pourrait dire, à la force du poignet.
En 1833... elle part à la quête de ses racines paternelles. Elle va traverser l'Atlantique, puis la cordillère des Andes pour rejoindre le Pérou. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle voyage seule, en étant une femme encore mariée, et sans argent. Alors, comment s'est passée la traversée ? Ça dure combien de temps, cette traversée ?
Oui, alors, elle part effectivement lorsqu'elle a 30 ans. Il y a toute une série comme ça de coïncidences dans lesquelles elle voit le signe de la Providence. Hein. Flora Tristan, c'est une romantique, donc elle a tendance à voir comme ça des signes du destin, des clins d'œil qui l'encouragent. Bon, on comprend d'ailleurs qu'elle ait besoin, la pauvre ait besoin d'être encouragée. Alors, comme Adèle vient de le dire, elle décide donc de partir à la recherche de ses racines. Alors, il y a deux objectifs. Le premier objectif, on peut comprendre de la part d'une femme qui est fugitive, qui se cache, qui a très peu d'argent, qui est bâtarde, enfin bon, qui porte avec elle quand même beaucoup de problèmes. On comprend qu'elle ait besoin d'être reconnue par la famille de son père. Alors, elle sait qu'au regard de la loi, elle est bâtarde, mais elle compte quand même sur l'affection naturelle, sur les liens du sang, voilà, sur la spontanéité de l'affection pour être accueillie quand même comme la fille de son père dans sa famille. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le premier objectif, entrer dans une famille. Et on comprend pour une fille qui a vécu, on a parlé de son enfance, on peut comprendre à quel point c'est important pour elle. Hein. C'est vraiment essayer de se raccrocher à une lignée, à une famille. Puis il y a quand même un deuxième objectif, il faut bien le dire. Flora Tristan n'est pas un esprit totalement planant et détaché des choses concrètes. Elle veut obtenir sa part d'héritage. La famille est richissime. Hein. Elle possède d'immenses plantations sucrières au Pérou. Et donc, elle veut obtenir la part d'héritage qui lui revient, à la fois la part d'héritage de son père, en tant que fille unique de son père, et aussi de sa grand-mère, qui elle aussi était une très riche aristocrate péruvienne. Donc il y a un double objectif, et il faut quand même bien dire que ce double objectif, enfin, ne sera pas rempli, ni l'un ni l'autre. Elle sera accueillie par la famille, hébergée, etc. Elle va y rester quelques mois, mais l'oncle va lui dire non, vous n'êtes que la bâtarde de mon frère, et à ce titre, on vous fait une rente, une petite pension, mais il n'est évidemment pas question de mettre la main sur l'héritage. Donc cet objectif ne sera pas atteint, elle va gagner autre chose au voyage au Pérou. Mais je reviens à la traversée, alors là aussi, c'est vraiment... On on a dit tout à l'heure, c'est du roman feuilleton. Oui, on est dans le roman feuilleton. Elle s'embarque seule. Je rappelle qu'elle est fugitive, qu'elle est obligée de se cacher de son mari. Elle a donné ses enfants à garder, bon, par des solutions plus ou moins improvisées, qui ne sont pas très satisfaisantes. On imagine qu'elle est très angoissée de s'embarquer en laissant ses enfants derrière elle en France. La traversée va durer 133 jours. Et alors, à l'époque, donc c'est la marine à voile, hein, donc elle s'embarque de Bordeaux. Elle va aller jusqu'à Valparaiso. À Valparaiso, elle débarque. Alors là, évidemment, elle fait sensation parce que, bon, le bruit s'est répandu, qu'elle a voyagé. C'est une jolie jeune femme de 30 ans, seule à bord, avec que des hommes. Bon, enfin, bref. Donc, il va y avoir beaucoup d'imagination qui vont s'échauffer. Je ne développe pas, tout le monde aura compris. Et à Valparaiso, donc, il n'y a pas de chemin terrestre. Hein, je ne sais pas si vous imaginez, Valparaiso, on est quand même très, très loin de Arequipa et du Pérou. Donc, il n'y a aucune liaison terrestre. Donc, il faut prendre un bateau pour aller jusqu'à peu près à hauteur de Lima. Et là, il faut traverser la cordillère des Andes, donc à dos de mulet, dans des conditions absolument rocambolesques. Je pèse mes mots. Le récit, alors moi, je vous invite à lire Les Pérégrinations du Paria, parce qu'elle raconte ça, c'est extraordinaire. Alors d'abord, la traversée, 133 jours, elle a tout le temps le mal de mer, elle n'est évidemment pas équipée. Alors les marins lui font une espèce de cirée en peau de poisson. Elle est dans un tonneau sur le pont parce que l'eau a envahi les cabines. Alors ça sent horriblement mauvais. Ils font escale au Cap-Vert. Alors là, ça, c'est quand même très important, l'escale, parce qu'elle va découvrir l'esclavage. C'est une colonie portugaise, hein, le Cap-Vert, au large du Sénégal. Et là, c'est la première fois qu'elle va voir ce qu'est donc la réalité de l'esclavage. Et je précise tout de suite qu'elle aura un engagement donc abolitionniste, très net. Elle va soutenir, par exemple, les campagnes de boycott du sucre qui sont initiées par des Anglaises. Mais j'en reviens au voyage, vous imaginez donc les conditions. Alors ça se passe quand même très bien ce voyage, parce que à bord elle va avoir la chance donc d'être entourée par des personnes, des hommes qui ont de bonnes intentions, même parfois des intentions trop bonnes, puisque le capitaine va tomber amoureux et va vouloir l'épouser. Alors elle est dans une situation catastrophique parce qu'elle ne peut pas dire qu'elle est mariée, évidemment. Donc elle ne sait pas très bien comment s'en dépêtrer. Enfin bon, ça ce sont des épisodes un petit peu romanesques, que je vous laisse découvrir si vous avez envie d'approfondir. Mais ce qui est très important, c'est qu'elle va se bricoler, j'emploie le terme volontairement, elle va se bricoler une sorte d'éducation politique à bord. Parce que tous ces hommes, ils ont des idées politiques très, très affirmées. Il y en a un qui est bonapartiste, il y en a un qui est légitimiste, il y en a un qui est républicain. Donc ils discutent, ils se disputent, et elle est là. On s'ennuie à mourir hein, sur ce voilier là, qui se traîne là, dans l'Atlantique. Vous imaginez si les jours elle a mal de mer, enfin bon, bref. Donc elle écoute, elle pose des questions, elle se fait une éducation à bord. Et ça aussi, c'est un de ces traits de caractère extrêmement, qui rejoint un peu la question de la dernière fois, c'est-à-dire comment elle a pu acquérir cette culture, parce qu'elle écoute, elle lit, elle pose des questions, elle regarde. C'est, je rends hommage à Michel Perrault, qui a, je crois, la grande historienne des femmes, qui a vraiment trouvé le terme, c'est une enquêtrice sociale en devenir. Et là, la vocation s'affirme.
Elle se fait une opinion politique à bord. Et puis quand elle arrive au Pérou aussi, elle découvre les inégalités sociales. Enfin, dit dans l'épisode 1. Voilà. Qu'est-ce qu'elle découvre en arrivant là-bas ?
Alors d'abord, elle va découvrir qu'elle est une paria. Alors ça la concerne elle, évidemment. C'est-à-dire que bon, son statut de bâtarde, orpheline, etc., lui est de fait renvoyé dans la figure, puisqu'on lui fait comprendre que elle n'a pas droit à l'héritage. Mais ça va être vraiment là le moment où elle prend conscience qu'être une paria n'est pas une faiblesse, mais une force. Parce que du coup, précisément parce qu'elle est bâtarde, pauvre, orpheline, etc., c'est précisément pour ça qu'elle peut parler pour les opprimés. Et c'est vraiment le point vraiment là de basculement où elle va prendre conscience. Alors là, elle le dit aussi dans un vocabulaire très romantique, inspiré aussi par le langage de l'Évangile, de ce qu'on appelait à l'époque le Christ des barricades. Mais elle a conscience qu'elle a une mission, au sens quasiment religieux, donc porter ce qu'elle appelle une bonne parole au Pérou. Alors pourquoi au Pérou ? Ben, le Pérou, il vient juste d'être indépendant. Hein. Le pays s'est émancipé de l'Espagne à peine quelques années avant. Il y a des inégalités sociales absolument considérables. Alors très, très habilement, là aussi, on parlait la dernière fois donc, de ce côté féministe, enfin qu'on pourrait appeler féministe avant la lettre, elle réclame, elle revendique et puis elle applique le droit pour une femme de sortir. On lui dit non, le premier mois, il faut rester puis attendre les visites. Elle n'est pas question. Elle est venue pour voir et donc elle sort sans savoir si ça choque la cousine ou le cousin ou l'oncle. Donc elle s'aventure dehors, elle pose des questions, elle regarde et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit un pays qui, à la différence des États-Unis d'Amérique, ça c'est elle qui le dit hein, de manière très judicieuse, les États-Unis d'Amérique, ils se sont effectivement émancipés de la puissance coloniale, mais ils ont réussi à bâtir un régime républicain qui tient. Pourquoi, dit-elle ? Parce que les inégalités sociales sont beaucoup plus fortes au Pérou, parce qu'il y a une grande masse de la population qui est analphabète, parce qu'il y a des contrastes ethniques qui sont très très forts, alors même si elle ne les a pas tellement vus, parce qu'elle est allée en fait qu'à Arequipa et à Lima, hein, donc dans les villes, donc elle n'a pas vu les Indiens qui travaillent dans les mines, etc. Et donc elle va prendre conscience des inégalités, des injustices et du sort tragique fait aux femmes. Alors elle observe ses cousines, qui n'ont pas eu d'autre choix qu'un mariage calamiteux ou entrer au couvent. Elle va dans les couvents de Carmélite, elle regarde et elle rapporte une masse d'observations qu'on pourrait appeler sociologiques, vraiment extrêmement fines. Hein. Bon, elle ne voit pas tout, évidemment. Hein. Il ne faut pas non plus faire de Flora Tristan une sorte de génie qui, en quelques mois, a réussi à comprendre tous les détails de ce qu'était le Pérou du début de l'indépendance. Mais elle accumule une masse d'informations, d'impressions, etc., dont elle fera la trame de son prochain livre. Et là, on peut dire, elle a trouvé sa vocation. Elle rentrera en France, elle n'a pas d'héritage, elle n'a pas été reconnue comme l'héritière légitime, mais elle a pris conscience de sa vocation.
Et justement, elle va faire la même chose aussi à Londres en 1839. Elle va y retourner. Elle y était déjà allée, mais là, toujours en solitaire, elle y retourne. Elle décrira la ville comme une ville monstre à l'économie monde. Londres, qui est le berceau, le terreau de la révolution industrielle. Elle reviendra du voyage avec un livre intitulé « Promenade dans Londres ». On imagine bien que ce n'est pas le genre à faire un voyage touristique. Qu'est-ce qui l'intéresse là-bas ? Pourquoi elle ne fait pas ça en France, dans son pays ? Pourquoi elle va à Londres pour son enquête sociale, justement ?
Voilà, oui, alors, effectivement. Alors, ce n'est pas son premier voyage, hein, comme Adèle vient de le dire. Donc, en fait, elle était allée en Angleterre parce que parmi les petits jobs, entre guillemets, qu'elle avait fait pour survivre quand elle était fugitive, elle était femme de chambre, enfin, dame de compagnie, et donc d'anglaise, et donc elle avait voyagé dans le pays. Alors là, c'est vraiment un voyage, comme Adèle l'a dit, c'est certainement pas touristique, certainement pas pour voir les beaux côtés de Londres, c'est vraiment pour mener une enquête sociologique. D'ailleurs, elle l'écrit, elle dit « Je vais à Londres, j'en rapporterai et je vais écrire un livre. Hein. » C'est vraiment dans l'idée de rapporter des matériaux pour écrire un livre. Alors, ce titre de « Promenade dans Londres », alors je ne peux que vous inviter à le lire parce qu'il y a des descriptions extraordinaires du Londres. Alors, ce n'est pas du tout le Londres chic de Hyde Park, etc. C'est les taudis, c'est les quartiers sordide, c'est le Londres de Dickens qu'elle peint, mais vraiment avec une force d'image extraordinaire. Enfin, les enfants voleurs, les qui fouillent la boue de la Tamise pour essayer de trouver des bouts de métal. C'est le Londres industriel avec où les ouvriers travaillent dans des conditions abominables. Alors elle a un terme pour elle, c'est anthropophage. Hein, ça, elle aime bien ce terme. Elle l'a déjà employé pour les maîtres d'esclaves et elle va le reprendre pour les patrons d'usines. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'elle emploie le même terme pour les uns et pour les autres, hein, donc l'idée de l'esclavage de l'ouvrier d'usine. Alors pourquoi elle va à Londres ? Et puis alors là, c'est vraiment un voyage préparé. Elle part seule, vous l'avez dit, mais elle part pas sans préparation. Quand elle part en 1839, elle a déjà publié des livres, elle a déjà des contacts extrêmement. Flora Tristan, c'est déjà une personnalité du Paris littéraire, politique. Elle a des contacts, elle écrit dans les journaux. C'est plus une femme totalement seule. Alors, elle part seule techniquement, mais sur place, elle est accueillie par des socialistes, les Owéniens, par les chartistes qui réclament le suffrage universel. Donc elle a des contacts politiques, on pourrait dire, de cercles qui sont les précurseurs des syndicats, hein, qui sont précieux et qui vont lui permettre d'assister à des réunions, de rencontrer des gens, même d'aller au Parlement. Alors, il y a un épisode très amusant où elle est obligée de se déguiser en mamamouchi pour pouvoir entrer, parce que le Parlement est interdit aux femmes, et donc bon, elle veut absolument assister à une séance, et on lui dit...
Qu'est-ce que c'est qu'un mamamouchi ?
Ah, le mamamouchi, alors bon, c'est le turc du bourgeois gentilhomme, quoi, c'est-à-dire avec un turban, un pantalon flottant, enfin, je ne sais pas très bien décrire en détail, mais tout le monde imaginera, parce qu'elle a sollicité, évidemment, tous les messieurs qui l'entourent pour demander une redingote, un pantalon, on lui a dit non, et il n'y a qu'un diplomate turc qui accepte, lui, de lui prêter une tenue d'ottoman, donc on imagine que ça devait être très joli, mais enfin, elle flotte dedans, elle fait une figure qui doit être assez drôle, parce que tout le monde éclate de rire, tout le monde reconnaît que c'est une femme déguisée, évidemment, mais on la laisse passer, et donc elle peut assister à une séance du Parlement. Alors, bon, ça c'est pour l'anecdote, c'est amusant, mais ça montre que, voilà, Flora Tristan, elle n'a pas froid aux yeux, hein. C'est quelqu'un qui, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Ça, je crois que ça aussi, c'est une idée très importante. Alors, elle est venue donc pour se rendre compte donc de ce qu'est la réalité politique, sociale, etc. Alors, pourquoi l'Angleterre et pas la France ? Alors, la France, elle le fera après, mais on y reviendra. Parce que, comme vous l'avez dit, Adèle, c'est le berceau de la révolution industrielle. Et comme beaucoup d'autres socialistes de son temps, elle est persuadée que ce qui se passe en Angleterre, ça annonce avec quelques années d'avance ce qui va se passer en France. Et ce qui s'annonce, c'est pas beau. C'est une dégradation extrêmement forte des conditions de vie et de travail de ce qu'on commence à appeler le prolétariat. La classe ouvrière, c'est le terme qu'elle emploie, mais elle commence à employer le terme de prolétariat. 1839, c'est vers 1840 qu'on commence à employer les termes de socialisme, etc. Le terme prolétariat, il apparaît dans les années 30, mais c'est encore un terme qui est, l'usage n'est pas encore très largement répandu. Donc, elle veut, en fait, aller à Londres pour analyser ce qui s'y passe et donc mettre en garde les ouvriers français de ce qui va forcément leur arriver. Donc ça, c'est une idée très importante. Et puis, il y a une autre idée. Elle ne va pas voir que des usines, des réunions politiques, etc., etc. Elle va, alors là aussi, c'est d'une audace incroyable quand on pense à la jeune femme délicate, soignée qu'elle est. Elle va s'aventurer dans les taudis, dans les quartiers les plus pauvres. Et Dieu sait qu'à Londres, bon, le quartier irlandais, par exemple, c'est vraiment atroce. Enfin, c'est des conditions de vie indescriptibles. Et elle va même, alors là, droit des femmes, hein, elle va même s'aventurer dans les bordels, alors que c'est, comme beaucoup de socialistes de son temps, c'est plutôt une puritaine, hein, c'est quelqu'un elle tient bien, les précurseurs de l'émancipation des femmes avaient souvent pour eux, vous ne voulez pas qu'on leur dise, oui, mais vous êtes pour la liberté sexuelle, c'était pas le terme, mais c'est l'idée, non, c'était pour les droits, mais certainement pas, il y avait quand même un certain puritanisme qui était souvent observé donc, dans ces milieux donc, de républicains et de socialistes. Alors, elle qui est, donc, elle est révulsée par ce qu'elle voit, elle va passer des nuits dans ces endroits, elle va s'obliger à regarder ce qui s'y passe. Et on a dit plusieurs fois que bon, ça force le respect, parce qu'effectivement, on peut imaginer qu'elle a été mais révulsée par ce qu'elle a vu, mais elle s'est obligée à le regarder parce que son mot d'ordre, c'est on ne peut pas guérir les maux sociaux, on ne peut pas corriger les injustices, les horreurs de l'ordre social si on n'a même pas le courage de les regarder en face. Et alors, dans les promenades dans Londres, alors le titre, il est effectivement un peu trompeur, hein, il est presque ironique, hein, parce que promenade...
Brigitte, avant que vous poursuiviez, on nous informe qu'il y a une question depuis le public, donc concluez sur cette réponse, et puis on va laisser la parole au public.
D'accord. Vas-y. Bon, alors voilà, donc vous imaginez les scènes, je vous laisse les découvrir en lisant Les promenades dans Londres, qui est un très beau livre, je vous laisse aussi mesurer l'audace que ça représente. Alors, je suis prête à répondre à toutes les questions du public.
Bonjour, Brigitte. Bonjour. Une petite question, parce que vous faites référence donc effectivement à 1840 comme la promenade dans Londres. Moi, j'ai envie de vous poser la question. À la même époque, il y a un autre jeune homme à peu près contemporain qu'elle qui fait à peu près le même trajet. C'est Engels, le jeune Engels, qui va d'ailleurs écrire à la suite de ça la situation de la classe laborieuse en Angleterre. Absolument. Est-ce qu'elle a l'occasion de le rencontrer ? Est-ce que, comment dire, puisqu'elle fréquente donc les milieux chartistes, Engels aussi, d'ailleurs y trouver sa compagne, sa future compagne, qui est militante chartiste, est-ce qu'ils vont se rencontrer ? Est-ce qu'ils vont avoir l'occasion d'échanger ? Elle emploie un peu le même vocabulaire, elle parle de prolétariat, elle veut se battre pour l'émancipation de la classe ouvrière. Est-ce que tout ça, ça fait qu'ils se rencontrent, ça fait qu'ils engagent un débat, puisque donc effectivement, vous dites aussi qu'elle commence à être connue comme, comme militante. Donc voilà, ma question.
Alors effectivement, c'est vrai que, j'ai dit c'est le Londres de Dickens, mais c'est aussi le Londres de Engels qui va publier effectivement quelques années après. Alors, on n'a aucun élément qui nous permette de savoir si, oui ou non, elle a rencontré Engels. Je ne peux pas vous répondre de manière précise parce que je n'ai aucune preuve. Bon, je pense que c'est plutôt non. Hein, d'après sa correspondance, ce qu'elle a écrit, je ne pense pas qu'ils se soient rencontrés. Alors, si on a le temps, un prochain épisode, où je ne sais pas comment les choses vont s'arranger, on pourra peut-être parler de savoir est-ce qu'elle a rencontré Marx. Là, la probabilité est peut-être plus forte. Mais là encore, je ne peux pas vous dire je peux vous le prouver, j'ai un signe concret qui le démontre. Mais vous avez raison sur le fond, c'est-à-dire que son livre est un peu antérieur à celui de Engels, elle pose effectivement un diagnostic extrêmement fort, extrêmement radical. Il y a une radicalité chez Flora Tristan. Elle pose un diagnostic extrêmement radical. On peut difficilement résumer en quelques phrases les promenades dans Londres. Il va quand même y en avoir 4 éditions, dont une édition qu'elle appelle une édition populaire. Ça c'est quelque chose qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire reprendre un texte en le publiant dans une édition très bon marché, dans l'idée, d'avoir une diffusion plus large. Alors, le diagnostic qu'elle partage avec Engels, c'est que la révolution industrielle et le capitalisme aggravent considérablement le sort du prolétariat et ne fait qu'accentuer les inégalités. Alors, il y a un autre point sur lequel, je ne sais pas si vous voulez que je réponde tout de suite c'est vrai, quand on pense à Engels, on pense à Marx, est-ce qu'on y reviendra, est-ce qu'on anticipe?
Oui, je pense. D'accord. Dans le quatrième épisode, on pourra y revenir.
Voilà, parce que c'est vrai que c'est très important.
Alors, elle fait un lien très très clair entre plaie sociale et matérialisme. Comment, du coup, elle envisage le progrès? Vous dites qu'elle est contre la propriété privée. Est-ce qu'elle est libérale? Est-ce qu'elle est... Alors, elle est progressiste, mais alors, comment on la situe politiquement?
Alors, elle n'est pas facile à situer. Le fait qu'on pose la question, effectivement... comment on pourrait dire? Alors, non, clairement, elle n'est pas libérale. C'est-à-dire que pour elle, le libéralisme économique qui a été quand même promu par la Révolution, l'abolition des corporations, la loi Le Chapelier, il faut rappeler que tout ce qui ressemble de près ou de loin à un syndicat n'existe pas et n'existera pas avant fort longtemps. Il n'y a pas de parti politique non plus. On est dans les années 1830, même années 1840, donc les associations, y compris celles qui ont pour un but d'entraide ouvrière, sont très très sévèrement contrôlées, surveillées, voire interdites, parce que le régime a pris un tournant très très répressif. Donc elle, clairement, elle se situe aux antipodes du libéralisme économique, parce qu'elle le dit d'ailleurs très bien, elle dit que la révolution a émancipé le citoyen, mais en fait il a renvoyé chacun à la concurrence de tous. Je fais une espèce de paraphrase
elle est
de Tocqueville.
Contre l'individualisme exacerbé.
Alors l'individualisme qui est effectivement la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est quand même le texte auquel tout le monde se réfère à l'époque, que ce soit pour en montrer les limites, ce qu'elle fait, ou pour dire que c'est le texte fondateur, ou pour dire au contraire que c'est une abomination du côté très conservateur. Elle dit que on a émancipé le alors là je parle quasiment en termes de Marx, c'est pas exactement les siens, mais ça c'est très très proche. On a émancipé le citoyen abstrait. Vous notez au passage que la citoyenne est oubliée, on y reviendra, mais il n'a pas pensé aux conditions de travail. Et que vaut une liberté, dit-elle en des termes qui sont des termes que Marx pourrait signer, et puis tous ceux qui ont suivi Marx, que vaut la liberté abstraite importe, lorsque on a des conditions, il n'y a pas le droit au travail, voilà, parce que c'est ça le nœud important, c'est le droit au travail. Il y a la liberté, mais il n'y a pas le droit, et on peut peut-être le dire comme ça. C'est ça qui est fondamental. Puis si j'ai encore une petite minute...
Allons-y, après nous laisserons une dernière question du public, mais voilà. Allez-y.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle a influencé Louise Michel ? Parce que dans tout ce que vous avez décrit, moi je ne connaissais pas du tout Flora Tristan, mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, notamment la dénonciation des conditions de travail, l'anticolonialisme, le féminisme. Est-ce que Louise Michel a poursuivi le travail de Flora Tristan ou est-ce qu'elle n'était pas dans le même axe ?
On va prendre une deuxième question du public et puis nous laisserons effectivement Brigitte répondre. Madame.
Ah oui. Moi, je voulais simplement demander si elle a connu Auguste Bianchi, les anarchistes, parce que je me rappelle plus exactement la date de Bianchi. Je pense que ça correspond.
Ils sont contemporains.
Hein, parce qu'en fait, les anarchistes ont lancé le socialisme, en fait, plus ou moins.
Je réponds.
Allez-y, Brigitte, voilà, vous en prie.
Je réponds alors. Alors, pour Louise Michel, effectivement, la question a été posée par les historiens des femmes et puis les historiens du mouvement ouvrier. On n'a pas d'éléments permettant de nous dire que Louise Michel s'est explicitement référée à Flora Tristan. Alors, on est tout à fait. Ah, il y a quoi ? Bon, il y a une bonne génération d'écart, au moins, peut-être même deux générations d'écart. Hein. Louise Michel, oui, c'est la deuxième moitié du siècle. Alors, là encore, on n'a pas tellement d'éléments. Mais il y a eu des travaux, il y a eu des articles pour dire qu'il y avait plein d'affinités, y compris la personnalité, le côté vierge rouge. Quelque part, ça fait écho à certains, un peu la personnalité de Flora Tristan, un goût de l'engagement extrême, enfin, je veux dire, il n'y a pas de compromis, on donne sa personne hein, à une cause sans se réserver une petite marge de confort et de compromis. C'est pas très étonnant. Pourquoi ? Parce que Flora Tristan, alors aussi peut-être qu'on y reviendra plus tard, Flora Tristan, elle est complètement passée, elle est tombée dans les oubliettes de l'histoire pendant...
Oui,
pendant...
ça ne dévoilait pas trop, c'est la question de l'épisode 4.
Alors, on y reviendra. Alors, je vais peut-être enchaîner tout de suite. Alors oui, c'est une contemporaine de Barbès et de Blanqui. Et en même temps, ça me permet de répondre aussi à la question d'Adèle. Comment la situer politiquement ? Elle répète à qui veut l'entendre qu'elle n'est pas une révolutionnaire et qu'elle conteste, par exemple, elle trouve que l'insurrection, par exemple l'insurrection des saisons, qu'on appelle comme ça, bon, c'est son nom, 1839, c'est Barbès, Blanqui, qui essaye de faire une insurrection donc, contre le régime très répressif, hein, il faut bien le dire, donc de Louis-Philippe. Donc ça demande un courage incontestable, ça tombe très mal parce que la classe ouvrière ne suit pas, enfin, y a pas, ils ne sont pas soutenus. Ce sont des bourgeois, plus ou moins quand même, voilà. Donc il n'y a pas de soulèvement et donc ils sont mis en prison, une répression épouvantable. Et Flora Tristan, elle est à Londres à ce moment-là et elle écrit et elle dit ce n'est pas une bonne idée parce que il n'y a pas de chance de succès, ça ne va pas ébranler le régime, au contraire il va y avoir une répression épouvantable et une fois de plus ce sont les ouvriers qui vont payer les pots cassés, bon les meneurs aussi évidemment, mais les ouvriers. Et donc elle répète tout le temps qu'elle n'est pas une révolutionnaire. Alors on reviendra là-dessus quand elle fera son tour de France parce que bon là elle est obligée, déjà qu'elle est pourchassée par la police, bon on comprend aussi qu'elle a intérêt à répéter qu'elle n'est pas révolutionnaire et qu'elle ne veut pas bousculer l'ordre établi. Mais pourquoi ? Parce que pour elle, à la limite, peu importe. Elle le dit, je paraphrase. Hein. Peu importe que ce soit Louis-Philippe, Charles X, la République de machin, etc., etc., ce qui compte, ce ne sont pas tellement les institutions politiques qu'il faut changer en priorité. Bon, bien sûr, le suffrage universel, c'est très bien, elle n'est évidemment pas contre, mais ce n'est pas son combat. Son combat, c'est le droit au travail. C'est une redéfinition des relations sociales, et vous avez employé, Adèle, le mot d'individualisme, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la révolution, elle a introduit l'individualisme dans le monde, au sens où chacun est responsable de soi. Si vous êtes du bon côté, tant mieux pour vous. Si vous êtes du mauvais côté, malheur à vous. Bon, je caricature, mais en gros, c'est ça. Et donc, l'individualisme aggrave de manière considérable donc, le sort de tous ceux qui ne sont pas du bon côté. Et évidemment, la majorité. Au passage, je rappelle que le suffrage universel masculin, il concerne dans la France de l'époque à peu près 200 000 personnes, hommes. C'est un suffrage censitaire. Donc quand on parle du suffrage, il faut quand même savoir de quoi on parle. 200 000 personnes sur une population qui est de moins de 40 millions d'habitants. Donc ça vous donne quand même un petit repère. Mais je répète, ce n'est pas le combat de Flora. Donc c'est difficile de la situer, vous voyez. Les Républicains, eux, alors qu'ils sont pourchassés par la police, eux, ils se battent pour le suffrage universel. Ils se battent masculin. Ils se battent pour la République. Alors, elle est proche d'eux, par certains, mais elle ne se reconnaît pas dans leur combat.
Voilà, elle va se reconnaître dans le droit social et pas dans le droit politique, à proprement parler.
Voilà.
Comment Flora Tristan va du coup trouver un remède à cet individualisme exacerbé, va prêcher de ville en ville pour unir des prolétaires, va déranger le pouvoir et donner toute son énergie et sa vie pour rassembler les foules, qu'enfin s'accomplisse la grande œuvre de l'humanité.
Merci pour cette conclusion, Adèle. C'est effectivement de bon ton pour clore cette fin de la deuxième partie. Toutes les émissions de Radio Agora sont en podcast. D'autres émissions vous attendent. Proposez-nous vos projets, parlez-nous de vos idées. Parlons de l'actu, de la citoyenneté et de la transition écologique. Rendez-vous pour cela sur www.radioagora-nanterre.fr. À très bientôt.
Vous êtes à l'écoute de Radio Agora.